Je vais passer la parole à Nathalie qui interviendra. Ensuite, le débat sera suivi d'un débat.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Les derniers chiffres du chômage sont tombés avant-hier et sans surprise, ils ne sont pas bons. Mais pas d'inquiétude, nous dit le gouvernement. Il y a maintenant le pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité est devenu l'alpha et l'oméga de la politique gouvernementale. La réponse à tout. Qu'il s'agisse de lutter contre le chômage, de relancer l'activité ou de restaurer le pouvoir d'achat. Quelle comédie! Le pacte de responsabilité n'est qu'un nouveau cadeau de 30 milliards au patronat. Et il est à ajouter à la longue liste des allègements de cotisations patronales qui n'ont jamais créé d'emploi et qui n'en créeront pas plus demain. Oh, le gouvernement jure que cette fois, il demandera au patronat des contreparties en termes d'emploi. Dans un premier temps, le dit patronat a joué le jeu. Le patron du MEDEF payant même de sa personne en arborant un pins avec 1 million d'euros écrit dessus. Mais 1 million d'emplois. Il y a peut-être 1 million d'emplois, mais il devait penser plutôt au milliard derrière. Mais depuis la sortie donc de Gattaz, le patron du MEDEF aux États-Unis, qui a été emmené dans les valises de Hollande, eh bien on a compris le fond de sa pensée. Le patronat prendra les 30 milliards, un point c'est tout. Mais les hypocrites, ils ne sont pas du côté du MEDEF. Les hypocrites, ils sont du côté du gouvernement. Parce que Hollande et Hérault savent pertinemment à quoi s'en tenir depuis le début. Ils savent que dans cette période de crise, le grand patronat licencie à tour de bras et qu'ils n'envisagent pas une seconde d'embaucher. Quant à les contraindre à embaucher, le gouvernement n'y pense pas. Leur politique est à l'exact opposé. Les patrons disent leurs conditions et le gouvernement obtempère. Les patrons ont demandé plus de flexibilité, ils l'ont obtenu. Ils ont voulu un crédit d'impôt compétitivité, ils l'ont eu. Ils voulaient baisser les droits à la retraite des travailleurs. Hollande l'a fait en aggravant la réforme Sarkozy. Le patronat a demandé que l'État réduise ses dépenses publiques pour pouvoir baisser encore les impôts pesant sur les plus riches. C'est prévu. Hollande et Hérault sont les hommes à tout faire du grand patronat. Ils sont à leur service et ils ne conçoivent pas d'autre politique que de lui servir la soupe. Et il ne faut pas s'en étonner. Tous ceux qui gouvernent, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont été choisis et sélectionnés pour leur dévouement au système capitaliste, pour leur dévouement et leur fidélité à la bourgeoisie. Leur priorité, ce sont les affaires de la bourgeoisie, les profits de la bourgeoisie, la compétitivité de la bourgeoisie. Quant aux travailleurs ou aux chômeurs, ils sont priés de patienter le temps que l'économie aille mieux et que les patrons aient besoin de bras à exploiter. Mais combien d'années faudra-t-il encore attendre? Pour la caste politique, les travailleurs ne sont que les soutiens de l'économie, sommés de s'adapter et d'accepter leur sort d'exploiter. Il n'y a aucune pitié, aucune mesure favorable à attendre de ces gens-là. Même au plus fort du développement du capitalisme, alors que les travailleurs étaient à la base de la production, des progrès et de l'enrichissement général, ils n'en ont eu que des miettes. Mais depuis que l'économie mondiale est entrée dans le marasme, la bourgeoisie préserve ses privilèges au prix d'une exploitation de plus en plus féroce, au prix du chômage de masse et de l'appauvrissement général des travailleurs. Et cette bataille pour l'emploi, c'est le grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs, pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques pour augmenter ses profits. Et pendant qu'ils nous joueront la comédie du pacte de responsabilité, les lettres de licenciement tomberont pour les travailleurs de Goodyear, pour ceux du transporteur Maurice Ducrot, pour les salariés de la Redoute. Alors même que Goodyear fait des bénéfices, alors même que le groupe Pinot, qui vient de vendre la Redoute pour sous-traiter les licenciements, prospère. Le gouvernement est complice des licencieurs et il leur sert la soupe. Loin de combattre le chômage, il le laisse exploser, au point que plus de 5 millions de femmes et d'hommes sont aujourd'hui privés d'emploi, livrés au petit boulot, à la débrouille individuelle. Eh bien, il faut que les travailleurs affirment qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils rejettent cette politique pro-patronale. Le gouvernement nous rabâche que sa politique favorable au patronat est bonne pour tout le pays. Mais une poignée de riches parasites ne fait pas un pays. L'écrasante majorité de la population est composée de travailleurs et de leurs familles, qu'ils soient au travail, au chômage ou à la retraite. Ce sont eux qui sont indispensables au fonctionnement de l'économie. La classe ouvrière, sans les bras, sans les cerveaux de la classe ouvrière, comment la société tournerait-elle ? La cure d'austérité que le gouvernement est en train de nous concocter fait partie du même ensemble, du même plan d'attaque contre les travailleurs. Le gouvernement a promis de faire 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques d'ici 2017. Pour trouver cette dizaine de milliards, le gouvernement aura l'embarras du choix. Les propositions de coupes drastiques fusent de tous les côtés. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, a lancé l'idée du gel de l'avancement des fonctionnaires. Cela ferait rentrer 1 milliard d'euros. Marisol Touraine évoque le développement de la chirurgie ambulatoire, façon de dire qu'il y aura encore la fermeture de milliers de lits d'hôpitaux. 500 millions, cela ferait rentrer dans les caisses. La Cour des comptes, présidée par le socialiste Didier Migaud, a proposé, entre autres, de cesser d'indexer sur l'inflation des prestations sociales comme les allocations logement, les allocations chômage ou famille, voire de décaler le versement de ces allocations de quelques mois. Et puis, côté patronat, on n'est pas non plus en manque d'idées. La première étant tout bonnement de revenir sur les allocations chômage des intermittents du spectacle et de diminuer les droits de tous les autres. Quant à la droite, vous l'imaginez bien, elle ne pouvait pas apporter sa contribution à cette foire au mauvais coup. L'UMP a donc concocté, par la voix de Mariton, un plan de 130 milliards d'économies sur 5 ans. Forcément, pour garder sa réputation, il fallait que l'UMP fasse mieux que le Parti socialiste. Bien sûr, aucune décision ne sera annoncée avant les élections municipales. Mais il y a une chose de certaine, c'est que ce seront les classes populaires qui paieront. Parce que le gouvernement ne touchera pas aux dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne touchera pas aux 50 milliards que l'État verse annuellement aux banquiers en intérêt la dette. Et il ne touchera pas aux milliards versés à Dassault au titre de l'achat de Rafale et autres gadgets militaires. L'État continuera de service de vache à lait aux grands groupes capitalistes, à arroser, y compris Peugeot, d'un nouveau milliard supplémentaire. En revanche, il touchera à l'argent des communes, des départements, des régions. Il demandera à tous les ministères de se serrer la vis et il imposera des restrictions aux hôpitaux, à l'éducation nationale. Cela sonnera aussi la fin de certaines aides et subventions aux associations. Et tout ce que les services publics n'assureront plus, eh bien, il faudra le payer, en passant par des entreprises privées. Alors, pour les travailleurs, ce ne seront pas des économies, mais ce seront des sacrifices supplémentaires. Tout ça, alors qu'à la Bourse de Paris, le CAC 40 a augmenté de 17% en 2013, et que des centaines de milliards affluent à nouveau sur les marchés spéculatifs, le gouvernement s'attaque aux salaires et aux droits des travailleurs. Alors oui, Hollande est dans le camp du patronat, et cela ne date pas d'hier. Et il faut être naïf ou menteur professionnel pour le découvrir aujourd'hui. Mais les travailleurs de Peugeot, et de Peugeot Aulnay en particulier, les travailleurs de Lejaby, de Virgin, tous ceux qui ont été licenciés l'année dernière l'ont compris depuis longtemps. les travailleurs, les retraités modestes qui ont vu leurs impôts augmenter de 100, 200, 300 euros l'ont compris, eux aussi. Et ils n'ont pas besoin de savoir si Hollande se dit socialiste, social-démocrate ou social-libéral pour comprendre que ce gouvernement les attaque depuis 20 mois. Et avec ce pacte de responsabilité, Hollande ne fait qu'en rajouter une couche. Alors ce gouvernement est un ennemi des travailleurs et il faut le combattre avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Oui, le gouvernement prétendument socialiste est passé corps et âme dans le camp de la bourgeoisie. Et cela ne date pas d'hier. Ceux qui, pendant 20 mois, ont fait mine de ne pas voir et de ne pas comprendre, ont trompé les travailleurs. Et ils ne méritent pas leur confiance. Ceux qui, comme les dirigeants du Parti communiste, ou comme Jean-Luc Mélenchon, avaient appelé à voter Hollande, ont fait croire qu'il y avait quelque chose de bon à attendre de lui. Encore aujourd'hui, il nous explique qu'il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait rejeter la politique de Sarkozy. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui si ce n'est pas la politique de Sarkozy? Non, il n'y avait rien à attendre de Hollande. Depuis toujours, il est dévoué à la bourgeoisie et au système capitaliste, comme l'était Jospin, comme l'était Mitterrand. Hollande gouverne pour servir les intérêts des capitalistes et toute sa carrière politique en témoigne. Il a été formé et sélectionné pour cela. Tous ceux qui ont fait croire qu'ils pourraient faire une autre politique que celle demandée par le patronat ont menti aux travailleurs. Et tous ceux qui prétendent, comme Mélenchon, pouvoir gouverner autrement, en protégeant les intérêts des travailleurs, mais sans avoir à remettre en cause la domination de la bourgeoisie sur l'économie, la propriété privée des entreprises et les lois du marché, sont des illusionnistes. Et ce n'est pas avec des illusions que les travailleurs pourront se défendre. C'est au contraire, en étant conscient qu'au-delà du petit personnel politique, il y a la bourgeoisie, les capitalistes, les licencieurs qui tirent les ficelles et que c'est à ce pouvoir-là qu'il faut s'attaquer. À entendre gouvernement et patronat, nous sommes tous dans le même bateau. Le pacte de responsabilité, comme les accords de compétitivité, sont, disent-ils, des accords gagnant-gagnant. Mais dans la société capitaliste, les accords gagnant-gagnant, cela n'existe pas. Les dirigeants et les défenseurs de ce système sont d'ailleurs les premiers à nous expliquer que le capitalisme, c'est la concurrence, la compétition, la guerre économique, et que ça l'est plus que jamais dans cette période de crise. Et ce sont les travailleurs qu'ils envoient en première ligne. Car à qui est-il demandé d'être toujours plus efficace, plus compétitif? À qui est-il demandé de s'adapter, de vivre en fonction des commandes? À qui est-il demandé de sacrifier son salaire, son emploi, sa vie, en fonction des aléas de cette économie stupide? Les travailleurs servent de chair à canon dans cette guerre économique. Ce sont eux qui sont sacrifiés sur l'autel de la compétitivité. Les patrons, ils y gagnent à tous les coups. Mais les travailleurs, eux, ils sont sûrs d'y perdre. Derrière la lutte contre la concurrence internationale se cache la lutte de classe. Et les travailleurs n'ont aucun intérêt à se laisser enrôler par le patronat dans une guerre qui n'est pas la leur. La guerre que les travailleurs ont à mener, c'est la lutte de classe. Les travailleurs doivent se battre pour eux, pour leurs revendications, pour leur salaire, pour leur emploi, pour leur retraite, pour leurs droits, et personne ne le fera à leur place. Et à partir du moment où les travailleurs engageront le bras de fer, il faut qu'ils soient prêts à aller jusqu'au bout. Si les travailleurs parviennent à arracher une partie du profit à la bourgeoisie, on l'entendra hurler, on l'entendra accuser les travailleurs de provoquer la faillite des entreprises, l'écroulement du système. Mais quel intérêt les travailleurs ont-ils à défendre ce système économique? Un système qui ne permet pas de vivre aux travailleurs, à ceux qui le font tourner, est un système indéfendable. Et une société qui prospère sur la faillite de la classe productive est une société qui doit disparaître au profit d'une nouvelle, dirigée cette fois par les travailleurs eux-mêmes, par les exploités, de façon qu'on ne laisse plus la concurrence et la loi du profit gâcher les possibilités immenses de la société. Oui, la lutte de classe existe, mais pour le moment, il n'y a que la bourgeoisie qui la mène. Et si les travailleurs ne la mènent pas, c'est en grande partie à cause de leur direction. Les grands partis de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste, ont une responsabilité majeure et ancienne dans la démobilisation des travailleurs. Cela fait bien longtemps, je l'ai dit, que le Parti socialiste s'est transformé en gestionnaire loyal de la bourgeoisie. Mais la direction du Parti communiste a fini, elle aussi, à s'intégrer dans les institutions et à tourner le dos aux perspectives révolutionnaires. Le Parti communiste est resté longtemps loin du pouvoir. Né en 1921, ce n'est qu'au lendemain de la guerre, en 1945, qu'il est entré au gouvernement. Il y est resté 2 ans et il n'y est revenu qu'en 1981 avec Mitterrand. Le Parti communiste a donc vécu le plus clair de son temps dans l'opposition. Mais même dans l'opposition, le Parti communiste a inculqué l'idée que la raison d'être de l'activité militante était de gagner des voix, de gagner des élections, de gagner des places dans les institutions. Oh, dans l'opposition, le PC a critiqué, dénoncé, il en a même appelé à des manifestations, à des mouvements sociaux. Mais ce n'était pas, et ce n'était plus, dans la perspective que ces luttes elles-mêmes changent le cours des choses. C'était toujours pour renforcer la gauche gouvernementale et pour accompagner son retour au pouvoir. Et on a vu de quoi était capable la gauche au pouvoir, même flanquée du Parti communiste. Avec Mitterrand d'abord, avec Jospin ensuite et maintenant avec Hollande, on sait qu'elle est capable de justifier l'injustifiable pour faire la politique que le patronat demande. Combien de fois les ministres communistes sont-ils retrouvés à prêcher la patience aux travailleurs ? À justifier la rigueur salariale, les reculs des services publics, les privatisations. Combien d'ouvriers influencés par le Parti communiste se sont alors sentis trahis ? Combien de militants ont été démoralisés, ont fini même par abandonner l'activité militante ? Aujourd'hui encore, sans être au gouvernement, le Parti communiste refuse de se placer dans l'opposition et continue de faire croire que le gouvernement peut encore redresser la barre. Pour cause. Pour sauver ses places dans les municipalités, le PC a choisi de faire liste commune avec le Parti socialiste dans de nombreuses municipalités. Alors, ce ne sont pas les travailleurs qui se détournent du Parti communiste. C'est la direction du Parti communiste qui tourne aujourd'hui le dos aux travailleurs en refusant de mener le combat contre ce gouvernement prétendument socialiste. À la fondation du Parti communiste, ce parti n'avait pas seulement pour perspective de réformer la société d'exploitation et d'en limiter ses méfaits. C'était de supprimer cette exploitation. C'était la perspective de renverser la société capitaliste et d'enlever à la bourgeoisie le pouvoir qu'elle a sur l'économie et son droit de mettre la société en coupe réglée. Eh bien, c'est avec toutes ces perspectives qu'il faut renouer aujourd'hui et avec tous les combats qui y mènent, les petits comme les grands. Pour mener ces combats et aller jusqu'au bout, il ne faut pas compter non plus sur les grandes centrales syndicales. Sans parler de la CFDT qui se prépare à faire passer la pilule du pacte de responsabilité auprès des travailleurs, comme elle l'a fait avec l'accord national interprofessionnel. Que font aujourd'hui la CGT et Force ouvrière pour préparer les travailleurs aux luttes indispensables ? Nous le savons parce que nous sommes militants. Les luttes ne se décrètent pas, mais on peut et on doit dire aux travailleurs que la seule issue pour le monde du travail, c'est de lutter. Et c'est justement ce que ne font pas aujourd'hui les dirigeants syndicaux. Bien heureusement, les organisations syndicales ne sont pas seulement des directions coupées du monde du travail. Ce ne sont pas seulement des appareils préservant surtout leur propre existence. Ce sont essentiellement des militants qui, dans leurs entreprises, agissent comme ils le peuvent pour défendre leur classe. Le chemin de la reprise de la combattie ouvrière passe par la volonté de cette base militante de discuter, de critiquer et de contrôler les directions qui prétendent parler en son nom. Et n'en doutons pas, comme ce fut le cas pour les ouvriers de Peugeot de l'usine d'Aulnay, quand les travailleurs décideront de se lancer dans le combat, ils se lanceront et ils sauront diriger eux-mêmes leur combat sur les mots d'ordre qu'ils auront eux-mêmes décidés et avec les méthodes qu'ils choisiront. Les directions syndicales, les partis qui visent l'électorat ouvrier, le Parti communiste ou le Front de gauche, les altermondialistes aussi de diverses obédiences, présentent tous le protectionnisme comme un rempart contre la mondialisation qu'ils présentent comme un ennemi. Ils se veulent les champions de l'industrie nationale et ils s'arc-boutent derrière les frontières des États, alors même qu'elles sont dépassées, y compris dans le cadre du capitalisme. Et en quoi les frontières peuvent-elles protéger les travailleurs de la domination du patronat et de l'exploitation ? En quoi les frontières vont-elles empêcher les patrons d'écraser les salaires, d'imposer des horaires insupportables ? Les capitalistes sont les maîtres de l'économie, que les frontières soient ouvertes ou fermées. Et le problème n'est pas de rajouter de nouvelles frontières, mais c'est bien de se débarrasser de ces capitalistes. La classe ouvrière doit renouer avec les perspectives ouvertes par le manifeste communiste et avec l'internationalisme qui lui est indissociable. Il y a presque unanimité dans la classe politique pour dire que l'immigration est un problème ou qu'il y a trop d'immigrés. Mais dans les années d'après-guerre, dans les années 1960 et 1970, l'immigration n'était pas un problème. Pour les dirigeants patronaux, pour les gouvernants, c'était au contraire la solution pour reconstruire le pays, pour faire tourner les usines. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ce sont les travailleurs immigrés qui se chargent des tâches les plus ingrates et les plus mal payées. Alors il y a de quoi être révolté quand on entend qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que les immigrés ne viennent pas pour être des assistés. Ils viennent pour travailler, pour gagner un peu d'argent, de quoi envoyer à leur famille. Et ils ne viennent pas pour prendre le logement HLM à un autre. Ils viennent pour le construire. Et il ne s'agit sûrement pas d'accueillir la misère, mais de la combattre. Et on ne la combat pas en chassant plus miséreux que soi, mais en combattant les responsables de ce système capitaliste où l'enrichissement des uns est justement basé sur l'appauvrissement de tous les autres. Et cela est vrai à l'échelle de toute la planète. Oui, c'est vrai à l'échelle de toute la planète. Et regardez d'ailleurs ce qu'ils ont fait de l'Afrique. Le colonialisme est fini, mais l'Afrique continue à être vidée de son sang et de ses richesses, comme au temps des colonies. Pour prélever tout ce qu'ils peuvent prélever sans avoir à délier les cordons de la bourse, les groupes capitalistes surexploitent les travailleurs, polluent des régions entières et s'appuient sur les pires dictateurs qui soient. Ils condamnent ainsi l'Afrique au sous-développement. C'est cette réalité que défendent aujourd'hui les troupes françaises qui interviennent au Mali ou en Centrafrique. Et c'est pour le remercier de cela que Barack Obama, le président des États-Unis, a passé de la pommade à Hollande quand il était en visite. Mais l'intérêt des travailleurs de France est de dénoncer les basses œuvres de l'impérialisme français en Afrique et d'affirmer leur solidarité avec les peuples fillés, pillés, affamés et divisés. Au-delà de la solidarité élémentaire, les travailleurs doivent être conscients que leur force est dans l'union de tous les travailleurs. Et les travailleurs ne doivent pas laisser pénétrer le poison raciste dans leur rang. D'ailleurs, le racisme anti-juif ne vaut pas mieux que le racisme anti-noir, anti-arabe ou anti-musulman. Quelle que soit leur origine, leur nationalité et leur religion, les travailleurs sont unis dans le sort d'exploiter et c'est ensemble, dans le combat contre l'exploitation, qu'ils s'en libéreront. La gravité de la crise actuelle et les menaces qu'elle fait peser sur la classe ouvrière et sur toute la société, la déconsidération du gouvernement de gauche feront mûrir les consciences. Personne ne peut deviner à quel rythme cette maturation se fera et à quel moment se produira ce basculement qui fera agir des millions et des millions de travailleurs refusant d'être lanternés alors que leur situation se dégrade. Mais dans les mois à venir, les travailleurs auront à s'exprimer dans les élections municipales d'abord, puis pour les élections des députés au Parlement européen. Eh bien, il faut que les travailleurs se saisissent de ces occasions pour montrer qu'il existe dans ce pays une opposition ouvrière au gouvernement, pour montrer qu'il y a des travailleurs conscients et de leurs intérêts et des luttes à mener. C'est pourquoi Lutte ouvrière présentera des candidats aux municipales dans de nombreuses villes. Nous présenterons aussi des candidats aux élections européennes. Nous serons d'ailleurs présents dans toutes les circonscriptions. Les élections municipales seront la première occasion qui sera donnée aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. Même si beaucoup tenteront de limiter la portée de ce vote aux enjeux locaux, il aura une signification politique. Alors, les deux prochaines élections seront l'occasion pour les travailleurs d'exprimer leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement et d'affirmer leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Patientez, espérez une hypothétique reprise. Voilà tout ce qu'offre le gouvernement aux travailleurs. Alors qu'il y a urgence, alors qu'à cause du chômage, des millions de travailleurs sont menacés dans leur existence même. Il faut des mesures radicales et contraignantes. Sauf à interdire les grands groupes de licencier, on n'arrêtera pas le chômage. Sauf à se mettre en travers des intérêts du grand patronat, on n'arrêtera pas l'hémorragie. Il n'y a pas de travail à donner à tous, répondront les patrons. Eh bien, qu'on impose qu'il soit réparti entre tous, sans diminution de salaire. Et pour résorber le chômage, car je l'ai dit, il y a plus de 5 millions de femmes et d'hommes privés d'emploi, eh bien, il faut des embauches. Partout, le personnel manque. Partout, la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables. Partout, les travailleurs ne peuvent plus poser leurs congés. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux, où tous les 6 mois, un travailleur en remplace un autre, mis au chômage. Oui, cela coûtera au patronat. Mais les grands groupes ont de quoi payer. Et à défaut, qu'ils puissent dans les fortunes accumulées par les grands actionnaires. Quant aux difficultés des petites entreprises, c'est à celles plus riches d'y parer. Et aux banques. L'État a aidé les banques en prétendant, et il les a aidées, à coût de centaines de milliards pendant la crise, en prétendant qu'elles étaient indispensables pour financer l'économie. Eh bien, qu'elles le fassent donc aujourd'hui. Mais les travailleurs, eux, n'ont pas à être sacrifiés pour toutes ces petites entreprises éclopées du système capitaliste. Tout cela n'est irréaliste que si l'on considère que les fortunes de la bourgeoisie sont intouchables. Mais dans une société normalement constituée, l'évidence imposerait qu'en période de crise, l'argent serve d'abord à sauver les emplois, à sauver ce qu'il y a de plus essentiel, de plus vital à la population. Et pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances et ce, pour les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour les minima sociaux. Ce sont des revendications élémentaires et à travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer le droit à la vie. Mais c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours, hein, il y a un manque de compétitivité, hein, embaucher est impossible, nous n'avons pas l'argent. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. Parce qu'on ne peut pas, et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie, les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale, versent 200 ou 300 fois le SMIC à leur PDG. Et les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent tout à fait normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qu'on retrouvera ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou plus grave encore, qu'on retrouvera dans la spéculation. Oui, le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Et pour savoir la vérité, les travailleurs n'ont pas d'autre solution que d'aller mettre leur nez eux-mêmes dans les comptes et d'éplucher la comptabilité. Et ce serait aussi la seule façon de mettre en lumière les mille et un canaux de l'exploitation et de cette immense pompe aspirante que constitue le capitalisme et qui fait qu'aujourd'hui, les 85 plus riches du monde possèdent l'équivalent de ce que détiennent les 3,5 milliards de plus pauvres. Oui, le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, la levée de ce secret doit faire partie du programme des travailleurs. Bien sûr, ces exigences-là ne pourront être imposées que s'il y a des luttes puissantes de la classe ouvrière et massive. Et cette mobilisation générale, elle ne se décrète pas comme cela. Et elle ne dépend pas d'un petit groupe, ni même d'aucun parti. D'ailleurs, jamais aucun parti ou aucun petit groupe n'a changé la société. Les changements sociaux ont toujours été provoqués par l'intervention des masses sur la scène politique, par l'évolution de l'état d'esprit de millions et de millions de travailleurs. Quel en sera-t-il demain? Personne ne peut le prédire. La situation est mouvante. Elle peut changer dans un sens comme dans un autre. Et la première des choses, c'est de regarder la réalité en face. N'en déplaise à ceux qui pensaient que Hollande serait moins pire que Sarkozy, c'est pire. Non seulement parce que la situation matérielle du monde du travail a empiré, mais aussi parce que ces 20 derniers mois, pendant ces 20 derniers mois du gouvernement socialiste, les travailleurs ont reculé aussi politiquement et moralement. C'est un constat. Le Parti socialiste au pouvoir fait le lit du Front national. Il suffit de discuter un peu autour de nous pour savoir que certains, des travailleurs, des chômeurs, sont tentés d'exprimer leur colère en votant pour le Front national. Ils pensent ainsi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils se trompent lourdement. Depuis quelques années, le Front national a compris que son électorat réactionnaire, composé d'anciens de l'Algérie française, de racistes et d'intégristes catholiques, ne lui permettrait pas d'accéder à la mangeoire. Alors, la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille millionnaire fait désormais dans l'indignation sociale. Et elle dénonce le chômage, les bas salaires, les petites retraites, les petits commerçants écrasés. Toutes choses qui font croire à ceux qui ne savent plus à quel saint ou à quel diable se vouer que Le Pen défend les ouvriers. La réalité, c'est qu'elle fait comme tous les autres. Qui d'ailleurs ne déplore pas le chômage? Qui ne dénonce pas les impôts qui pèsent sur les plus modestes? Même ceux qui en sont, qui sont responsables de ces augmentations d'impôts, le font. Verser des larmes de crocodile est à la portée de tout le monde, de tous les démagogues. Encore une fois, dans cette société, et surtout dans une période de crise, tous ceux qui ne sont pas déterminés à faire payer la grande bourgeoisie et à s'en prendre au profit des grands groupes capitalistes et aux exploiteurs se préparent à gouverner contre les travailleurs. D'ailleurs, Le Pen ne s'en cache pas. Ceux qu'elle veut faire payer, ce sont les immigrés, c'est-à-dire des travailleurs, c'est-à-dire un grand nombre d'entre nous. Ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le Front National en se disant qu'il faut l'essayer, se tirent une balle dans le pied. Parce que leur vote se retournera contre eux. Leur vote se mélangera avec ceux des pires réactionnaires, des petits patrons, avec ceux des petits patrons anti-ouvriers qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA. Il se mélangera avec celui des racistes. Et il sera interprété comme une critique du gouvernement sur sa droite. Il sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs, une politique plus dure contre les syndicats, plus dure contre les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Bien sûr, il faut rejeter le gouvernement, mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière en mettant en avant les intérêts des travailleurs. Et pour faire reculer ce patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle, il faudra des luttes massives de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer dans les élections, ce sera le cas donc dans les prochaines échéances, il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre ses serviteurs politiques, toutes obédiences confondues, du Parti Socialiste au Front National, en passant bien sûr par la droite et par le centre. Dans les prochaines élections, la question qui se pose aux électeurs des classes populaires est de savoir s'ils sont prêts à participer, fût-ce modestement, fût-ce avec leur simple bulletin de vote, au réveil de la conscience ouvrière. Aux municipales, comme aux européennes, les votes en faveur des partis de la majorité présidentielle seront comptabilisés comme des votes en faveur du gouvernement. Les votes en faveur des partis de droite seront comptabilisés comme des votes favorables au retour au pouvoir des amis de Sarkozy, si ce n'est pas de Sarkozy en personne. Et les votes en faveur du Front National, je viens de le dire, seront comptabilisés comme des votes en faveur d'une politique plus répressive, plus réactionnaire encore que celle de Sarkozy. Quant à s'abstenir, ce n'est pas seulement se détourner de tous ces partis qui représentent les intérêts de la grande bourgeoisie. C'est se détourner de toute politique, y compris d'une politique en faveur des travailleurs. Or, ces élections, elles permettent de faire au moins un geste politique sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout et fait vivre la société. Ce sera le sens des listes lutte ouvrière dans ces élections. Et il est important que les candidats représentant le camp des travailleurs soient présents dans toutes ces élections. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'alternance des partis de la bourgeoisie est un leurre pour les travailleurs. Il faut surtout qu'émerge un parti qui représente les intérêts politiques et économiques de la classe ouvrière. Ce parti n'existe pas aujourd'hui. Les partis de gauche, qui d'ailleurs prétendent de moins en moins incarner les intérêts des exploités, sont devenus depuis longtemps des partis au service de la bourgeoisie. Ce parti ne pourra surgir que si des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprennent confiance en eux et en leur classe et s'engagent sur le terrain de l'activité militante. Les élections peuvent faire franchir un pas petit peut-être, mais un pas quand même dans cette direction. Alors, chacun peut y contribuer en participant à cette campagne électorale, chacun peut y contribuer en participant aux listes de lutte ouvrière et en cherchant maintenant à convaincre autour de soi, sur son lieu de travail, dans son quartier, dans sa famille. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, à sa façon, et ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin de tous.
Bien, comme je l'avais annoncé, nous allons engager un débat suite à l'intervention de Nathalie avec la salle. Donc, tous ceux qui souhaitent intervenir, lèvent la main bien haute, de façon à ce qu'on la voit, et un micro-baladeur vous sera proposé pour intervenir. Voilà, donc la parole à la salle.